Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les maladies du spectre de la neuromyélite optique, ou NMOSD. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Romain Marinier. Professeur Marinier, bonjour.
Bonjour.
Professeur Marinier, vous êtes neurologue, professeur des universités à la faculté de médecine de Lyon et praticien hospitalier dans le service de neurologie à l'hôpital Pierre Wertheimer au sein des hospices civils de Lyon. Alors au sein de l'hôpital, vous êtes également responsable du centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Alors professeur Marinier, nous allons aborder aujourd'hui les différents types de prise en charge possibles de la neuromyélite optique et nous allons débuter par l'urgence. Quelles sont les modalités de prise en charge de cette maladie en aiguë?
Ah, vous l'avez tout à fait résumé, c'est une urgence, c'est le point principal. Une poussée de neuromyélite optique ou une attaque de neuromyélite optique est une urgence absolue qui nécessite donc une prise en charge hospitalière le plus rapidement possible, c'est une question d'heure. Le traitement mis en route sera une corticothérapie, d'abord intraveineuse, et si celle-ci n'est pas efficace, on propose très rapidement l'utilisation de ce qu'on appelle des échanges plasmatiques, qui sont comme une dialyse qui vise à épurer le sang de facteurs immunologiques toxiques. Donc c'est pour ça que certains de ces traitements, notamment les échanges plasmatiques, ne sont disponibles que dans certains centres, d'où la nécessité que les patients souffrant de NMOSD puissent être pris en charge dans des centres experts. Il n'y a peu d'alternatives à cette prise en charge. Certains groupes ont développé une prise en charge par des immunoglobulines polyvalentes, mais le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Dernier élément, chez des patients chez qui une poussée a déjà eu lieu, qui refont malheureusement une poussée, et chez qui la corticothérapie n'avait pas été très efficace, on peut proposer dans ces cas-là d'emblée un traitement par échange plasmatique.
Très bien, c'est très clair. Alors si on aborde maintenant le plus long terme, est-ce qu'il existe des traitements de fond ou qui peuvent être utilisés en préventif?
Tout à fait, c'est très important, c'est le deuxième axe de la prise en charge. En fait, suite à la prise en charge aiguë, il faut d'emblée ne pas attendre un deuxième épisode, mettre en route un traitement de fond pour prévenir le risque de nouvel épisode, puisque dans la neuromyélite optique, à la différence de la sclérose en plaques, les poussées sont responsables du handicap. Il n'y a pas de progression entre les poussées. Donc si on permet de prévenir le risque de poussée, on permet de prévenir le risque de handicap futur. Les principes, c'est donc de débuter dès le premier épisode, dans la suite immédiate du traitement de la poussée. La durée est prolongée, sera réévaluée en fonction du type de neuromyélite optique, que ce soit une neuromyélite à anticorps anti-aquaporine 4, à anti-MOG ou sans anticorps. Il y a plusieurs classes médicamenteuses qui sont disponibles. Anciennement, on utilisait des immunosuppresseurs large spectre, actuellement plutôt des anticorps monoclonaux. Un élément important aussi, c'est que les traitements de la sclérose en plaques ne sont pas adaptés, risquent même d'aggraver la maladie.
Et au-delà des traitements spécifiques, professeur Marinier, est-ce qu'il existe d'autres modalités de prise en charge, peut-être plus symptomatiques, qu'on peut proposer aux patients?
Les traitements dont je viens de vous parler sont des traitements qui visent à prévenir le risque de nouvel épisode, donc de prévenir le risque de nouvel handicap, mais ils n'ont aucun effet sur ce qui est déjà arrivé. Et malheureusement, une poussée, même si elle est bien prise en charge, peut laisser des séquelles et nécessitera donc une prise en charge qu'on appelle symptomatique, qui va être multidisciplinaire, qui va bien entendu être adapté à la plainte du patient. Si l'atteinte est visuelle, on orientera le patient vers de la rééducation basse vision, de l'orthopsie. Si la plainte est d'allure médulaire, là, il y a une prise en charge nécessaire en MPR, en médecine physique et réadaptation, avec de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de la psychomotricité si besoin. Il peut également y avoir des séquelles à type sexuel ou sphinctérien qui nécessiteront d'une part des examens pour caractériser, d'autre part, la mise en route de traitements symptomatiques. Et puis, malheureusement, il y a souvent des phénomènes sensitifs douloureux qui peuvent apparaître après une poussée de NMO, notamment médulaire. Et là encore, on pourra orienter le patient vers une prise en charge spécialisée dans les centres antidouleurs. Dans tous les cas, la maladie nécessite également une prise en charge globale, avec souvent la nécessité d'un soutien psychologique, d'une discussion avec les assistants, enfin le service social, pour aider le patient dans ses démarches et éventuellement la médecine du travail pour discuter de la poursuite de l'activité professionnelle.
Donc ça, c'est tout ce dont on a à disposition, un arsenal qui est déjà bien fourni. Si on fait un petit peu de prospective, où en est la recherche dans cette pathologie?
Alors, c'est une question très importante et j'ai l'habitude de dire que, donc on est sur un podcast de maladies rares, la NMO est une maladie rare, mais ce n'est pas une maladie orpheline. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'équipes dans le monde, et même de structures qui permettent de travailler et qui travaillent pour mieux comprendre et mieux traiter la maladie. Donc en France, Bien entendu, on en reparlera, il y a le centre expert MIRSEM, il y a le réseau Nomanmus, il y a les centres ressources. Au niveau européen, il y a également ce qu'on appelle les European Referral Network, qui vise à prendre en charge et harmoniser la prise en charge des patients souffrant de NMO et d'améliorer également la recherche. Et puis, sur le plan mondial, il y a une fondation américaine qui s'appelle la Gutty Jackson Foundation, qui a mis déjà beaucoup d'argent pour mieux comprendre la maladie d'une part et mieux la traiter. Donc la recherche a deux axes, c'est un axe de compréhension des mécanismes, ce qu'on appelle la physiopathologie, qui sont les mécanismes de la maladie. Donc là, c'est des travaux plus fondamentaux, immunologiques, en neurosciences, qui permettent d'essayer de comprendre le rôle de l'anticorps, comment protéger le système nerveux, la myéline. Et puis, il y a un axe de recherche thérapeutique qui vise à évaluer l'effet des traitements sur la prévention. Donc là, il y a deux axes de recherche. Il y a un axe plutôt orienté sur prévenir par les traitements immunologiques, voire des traitements neuroprotecteurs, qui sont aussi en développement. Et puis, il y a un axe très prometteur qui serait de guérir, entre guillemets, hein, je pense qu'il faut être prudent, mais qui viserait à modifier de façon prolonger le système immunitaire, ce qu'on appelle la tolérisation, et qui normalement pourrait aboutir, si cela marche, les essais sont en cours, c'est pour l'instant très préliminaire, mais très intéressant, à modifier le système immunitaire pour éviter que la maladie continue à évoluer, qui permettrait d'arrêter les traitements immunoactifs.
Donc, une belle perspective. Pour terminer, notre dernière question, professeur Marinier. Vous l'avez dit, la neuromyélite optique, c'est une maladie neurologique rare et vous êtes responsable à Lyon du centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Alors, à ce propos, quelle est l'importance d'une prise en charge des patients atteints par ce type de maladie par une filière de soins spécialisée ?
Merci, c'est une question très importante. Il existe en effet en France des centres spécialisés dans la prise en charge de la neuromyélite optique, dont notre centre expert MIRSEM. Il y a 3 centres MIRSEM en France. Le centre coordinateur qui se situe à Paris, donc il y a le professeur Deiva qui est orienté sur la prise en charge pédiatrique. Il y a un autre centre à Paris qui n'est moins orienté sur la neuromyélite optique et notre centre est plus orienté sur la neuromyélite optique à Lyon. Il y a également en France un réseau de prise en charge des patients souffrant de sclérose en plaques qui s'intéresse et qui a une expertise également dans la prise en charge des patients souffrant de NMO qui s'appelle les CRC sclérose en plaques. Donc il y a tout un réseau de prise en charge qui permet d'améliorer la prise en charge à la fois sur le plan diagnostique et thérapeutique. Ça passe par ailleurs par des réunions qu'on appelle de concertation pluridisciplinaire. Donc, on fait ça une fois par mois. Donc on discute des dossiers sur le plan clinique, sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique pour permettre une harmonisation de cette prise en charge. À quoi ça sert un centre expert ? Au-delà de cette connaissance spécifique d'une maladie rare, ça permet également d'avoir accès à des traitements spécifiques. On a parlé en introduction de la nécessité d'accès aux échanges plasmatiques dans beaucoup de cas de poussée de neuromyélite optique. Malheureusement, ces échanges plasmatiques ne sont pas toujours disponibles et ils le sont dans les centres experts. Dernier point, les centres experts sont également accompagnent les essais thérapeutiques, donc permettent aux patients d'avoir accès à des traitements qui sont en développement et qui sont spécifiques de cette maladie.
Eh bien, merci infiniment, professeur Marinier, de nous avoir fait mieux connaître la prise en charge de la neuromyélite optique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses ressources sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la neuromyélite optique, avec le témoignage d'une patiente qui nous fera part de son expérience et reviendra sur son parcours de soins. À très vite.